sur votre radio préférée.
Je m'appelle Zangra et je suis lieutenant au fort de Bellanzio qui domine la plaine d'où l'ennemi viendra qui me fera héros. Christian Chulé, bonjour.
Bonjour.
Je cite cette chanson de Jacques Brel parce que cette semaine, vous nous avez emmenés à Ormont-de-Soult. Nous avons dû prendre les raquettes pour pouvoir braver la neige et atteindre ce lieu. C'est un promontoire rocheux situé à 1387 mètres et qui domine la vallée des Ormont.
Et oui, et les ruines du château d'Aigremont méritent l'attention des voyageurs. Pierre, comme l'indique un manuel du voyageur en Suisse paru en 1819. Nous sommes donc tout naturellement partis à l'assaut de cette forteresse depuis le panneau indicateur ruine du château d'Aigremont en cheminant, comme vous l'avez dit, en affrontant les éléments à travers ce plateau sur lequel est établi le hameau des Vouettes pour atteindre à son extrémité un promontoire où s'élèvent au milieu des sapins les rares vestiges de ce château, un château de légende comme nous allons le voir.
Qui dominait la plaine, comme je le disais, aujourd'hui les sapins cachent la vue, mais sur ce site rocheux, Christian Chulé, qu'est-ce qu'on peut dire ?
Alors, le site est sauvage et ce n'est pas sans peine qu'on découvre le fragment de tour qui reste de cette demeure féodale. Ce constat est de 1897, mais il est toujours valable de nos jours, puisque la ruine du château d'Aigremont n'est pas récente. Il est déjà représenté en état d'abandon sur une carte de 1578. Sur cette carte, on voit une construction encadrée par deux tours, des tours au sommet desquelles est dessinée de la végétation.
Christian Chulé, est-ce que l'on sait lorsque ce château a été construit?
On ignore la date précise de sa construction, de cet édifice qui est bâti dans une position qui domine la vallée des Ormont et son accès depuis la plaine du Rhône. Cette construction remonte à l'époque d'Aymon de Pontvert, un personnage qui fut bailli du Chablais en 1350, c'est-à-dire représentant du comte de Savoie dans la région. Aymon de Pontvert est issu d'une famille noble de Savoie, la famille de Pontvert, qui détenait des droits dans la vallée des Ormont, entre autres, et il est désigné par le titre de seigneur d'Aigremont pour la première fois en 1348. On en déduit donc que la construction du château daterait vraisemblablement de cette époque, soit le milieu du XIVe siècle.
Et donc, ses héritiers ont pris le château comme possession ?
Il est resté peu de temps dans la famille, puisque la famille de Pontvert s'éteint après la mort de son fils.
Que se passe-t-il avec les biens ?
Ils sont partagés entre trois familles seigneuriales, dont celle des comtes de Gruyère. Et en 1403, le comte Rodolphe IV de Gruyère fait occuper le château afin de tenter de dépouiller ses co-héritiers de leurs droits. Mais la tentative échoue et le château est restauré à l'initiative du comte de Savoie dont dépendait ce territoire, dont dépendait l'actuel district d'Aigle.
Tout change au début du XVIe siècle.
Et contrairement à une croyance, le château n'est pas détruit lors de la prise d'Aigle par la République de Berne en 1475, mais en 1501, Antoine de Gruyère vend Aigremont aux Bernois. Et comme l'écrit l'historien Eugène Cortési, là s'arrête l'histoire du château d'Aigremont. Il est probable que le temps seul en ait fait le monceau de ruines qu'on voit aujourd'hui.
Mais les vestiges de ces ruines ne sont pas restés sans intérêt.
Ils ont fait l'objet de relevés archéologiques en 2013, des relevés qui ont permis de déterminer que le château comportait plusieurs bâtiments entourés par une enceinte. Et le pont de mur, qui aujourd'hui constitue l'unique vestige visible, appartenait à une tour circulaire, une tour qui était située dans un angle de la forteresse, et une tour dont la représentation trône au centre des armoiries dormant dessous, des armoiries adoptées il y a pile 100 ans, en 1921.
N'empêche, Christian Chulé, une belle légende circule autour de ce château.
Et la tradition raconte en effet qu'un jour, le château fut attaqué en l'absence de son seigneur. Les jeunes gens de la Forclaz, située de l'autre côté de la vallée, se portèrent alors au secours de cette dame de Pontvert, et la sauvèrent au péril de leur vie. Pénétrée de reconnaissance, la noble dame leur fit présent de la grande montagne de Perche sous la condition expresse que les femmes y auraient part comme les hommes et que les filles de la Forclaz qui se marieraient hors de la vallée y conserveraient leurs droits, elles et leur postérité. Et selon le doyen Bridel, qui fut notamment passeur à Châteaudet et à qui l'on doit ce récit, la superstition dit encore que, je vais encore le citer, il y a des voûtes souterraines, un cabinet où déposent des chaudières pleines de pièces d'or, un fauteuil où Pontvert s'assied pour protéger et compter son trésor, un grand bouc gardien dont les cornes menaçantes effraient les profanes, de terribles vacarmes à minuit, des demoiselles vêtues de noir et voilées de blanc qui chantent des airs mélancoliques sur les brèches, etc. Ce qui fait que le peu de curieux qui visitent ces débris isolés sont regardés par les gens du pays ou comme des téméraires qui s'exposent à des périls certains ou comme des adeptes qui vont prendre part à ces richesses clandestines. Si nous ne sommes pas à l'antenne, Pierre, la semaine prochaine, c'est qu'il sera arrivé malheur aux téméraires aventuriers que nous sommes.
Ou alors, nous aurons découvert le trésor, ça, on vous le dira la semaine prochaine. Merci beaucoup, Christian Chulet. Après l'évocation de ce passé glorieux d'Aigremont, notre visite guidée dans les Ormonts s'achèvera la semaine prochaine sur un pont, le plus célèbre de la vallée, un pont qui enjambe la Grande-Eau. D'ici là, belle semaine.
À vous aussi, merci.